Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis, merci pour le petit coup de pouce du téléphone sonne. À demain en tout cas pour nous, c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous confortablement et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 6 avril avec le journal de Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir par un appel à évacuer.
Kiev qui appelle les habitants de l'est de l'Ukraine à quitter la région maintenant. Kiev qui craint une offensive russe majeure dans le Donbass. Les habitants originaires de cette région s'inquiètent de l'arrivée des troupes du Kremlin dans les jours qui viennent. Nous serons en Ukraine dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Témoignage également d'une habitante de Kharkiv. En France, l'actualité, c'est cette plainte déposée par la famille de Samuel Paty contre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur. Une plainte qui vise les défaillances de l'État dans cette affaire. On entendra l'avocate de la famille. Une plainte dont s'est également saisi déjà Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite qui tente par tous les moyens d'imposer à nouveau ses thématiques dans la campagne. Et puis pour finir, la réputation du conservatoire parisien de musique et de danse qui ne cesse de monter, classé 4e établissement dans le monde.
Et à 18h15, un jour dans le monde avec la procureure d'Ukraine, Irina Venediktova, et l'enquête sur les crimes de guerre. Elle en a 4000 des dossiers ouverts sur son bureau. Et puis nous parlerons avec Laure Mandeville, qui est spécialiste de la Russie, journaliste au Figaro, ce que toutes ces exactions nous disent de la Russie, de l'armée russe et peut-être aussi un peu de nous. À 19h20, le téléphone sonne ce soir. On va voir comment les barmen, les baristas, les patrons de bar se forment depuis plusieurs semaines à repérer les victimes de GHB, à repérer les comportements, les agresseurs. C'est une vraie campagne qui a été lancée, sur laquelle on fait le point, parce que les témoignages de victimes se multiplient. La drogue du viol dans les verres, c'est un MeToo la nuit. Et c'est important, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les taux se resserrent donc sur le Donbass.
Le Donbass à l'est du pays qui est désormais l'objectif militaire principal de l'armée russe depuis son retrait des zones autour de Kiev. L'armée russe qui n'a pas encore lancé de grande offensive mais qui se réorganise, qui rassemble ses forces. Les Ukrainiens de cette zone risquent donc de se retrouver pris en tenaille et c'est pour cela que cet après-midi les autorités ukrainiennes appellent tous les habitants à quitter le théâtre des combats. Le point sur la situation avec notre envoyé spécial Marie-Pierre Véron.
Il faut quitter d'urgence les régions de Kharkiv, Louhansk, Donetsk, évacuer tant qu'on le peut encore, évacuer maintenant, insiste la vice-première ministre, parce que très vite, ajoute-t-elle, les populations civiles de l'Est seront sous le feu et risqueront la mort. Des centres d'évacuation ont été mis en place dans ces trois zones. La population civile est vivement invitée à les rejoindre ou à évacuer par ses propres moyens. Le chef de l'administration militaire de Louhansk avait lancé un appel similaire il y a quelques jours. C'est un nouvel avertissement donc, alors que les Russes massent leurs troupes dans cette région de l'est de l'Ukraine et se préparent, selon toute vraisemblance, à une offensive de grande ampleur. Les autorités ukrainiennes estiment que les troupes russes vont tenter de les encercler afin de prendre le contrôle du Donbass tout entier. Et elles ne veulent pas vivre la même situation qu'à Mariupol par exemple, où les civils sont pris sous le feu croisé des armées, voire utilisés comme boucliers humains. Le départ des habitants, explique la télévision ukrainienne, permettra à notre armée de ne pas avoir les mains liées, de ne pas s'inquiéter du sort des civils dans sa riposte. Dans le sud-est de l'Ukraine, Arthur Gerbeau, Marie-Pierre Véro, France Inter.
Comment est vécu cet appel à quitter l'est du pays? Craignent les populations, craignent-elles l'arrivée des forces russes? On a posé la question à Olga, une habitante de Kharkiv, qui a pu se réfugier à Lviv, mais dont le reste de la famille est toujours sur place, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la Russie. On l'écoute.
Il vaut mieux partir, parce que comme ça, tu restes en vie. La situation est telle que tu ne peux pas être utile aux Ukrainiens et à l'armée. Parce qu'il n'y a que des tirs et que personne ne peut t'aider, personne ne peut arrêter les combats. Et pire, si tu décides de partir trop tôt, à un moment où les combats s'intensifient, c'est impossible de fuir en voiture, parce qu'ils tirent sur les voitures. Ils tirent sur les femmes enceintes, sur les enfants. Le but, c'est un génocide. Les cibles, ce sont les Ukrainiens. Ils ne veulent pas nous combattre. Ils veulent juste tuer des Ukrainiens.
killed Ukrainians.
Voilà, témoignage d'Olga recueilli par Virginie Pironon. Et puis parmi les habitants qui fuient les combats, il y a aussi ceux du sud-est du pays vers Mariupol. Le CICR a renoncé hier à évacuer des personnes de cette ville assiégée, mais la Croix-Rouge a pu malgré tout mener aujourd'hui un convoi de bus et de voitures privées avec plus de 500 personnes en direction de Zaporijjia. L'actualité ukrainienne, c'est aussi une nouvelle salve de sanctions contre le Kremlin. Un cinquième train de sanctions est toujours en préparation au sein de l'Union européenne. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé des sanctions maximales contre les grandes banques russes, Sberbank et Alpha Bank, et contre les deux filles de Vladimir Poutine. À l'inverse, Viktor Orban, lui, le seul des pays occidentaux, a cédé aux demandes de Moscou. Le premier ministre hongrois, réélu largement ce week-end, se dit prêt à payer le gaz russe en rouble. Il rentre aussi dans la danse diplomatique et propose à Vladimir Poutine de venir à Budapest en vue de négocier un cessez-le-feu immédiat. En bref, encore à l'étranger, la condamnation à la perpétuité de Blaise Compaoré pour l'assassinat en 1987 de Thomas Sankara, l'ex-président du Burkina Faso. Condamnation par contumace, Blaise Compaoré est en exil en Côte d'Ivoire.
L'armée malienne et le groupe Wagner accusés de nouvelles exactions.
Oui, alors que l'armée malienne a indiqué avoir éliminé la semaine dernière plus de 200 terroristes à Moura, un village du centre du pays. Et cette version des faits est très fortement contestée ces derniers jours. Le Quai d'Orsay réclame une enquête. Human Rights Watch parle du pire épisode d'atrocité commise contre des civils depuis 10 ans. Son rapport se base sur des témoignages soulignant l'implication de combattants blancs suspectés d'être des miliciens du groupe Wagner, des supplétifs Claude Guibal accusés d'être à l'origine d'exactions.
Disparition, accusation de torture, corps retrouvé calciné ou criblé de balles à proximité de lieux suspectés d'avoir servi de base de repli à des djihadistes. Depuis décembre, l'arrivée des combattants de Wagner et l'annonce du retrait de Barkhane, les ONG des droits de l'homme tentent d'alerter malgré le silence contraint de la presse muselée par les décisions gouvernementales qui punissent toute diffusion d'informations qui nuiraient à l'image de l'armée. Une armée malienne qui se targue de reprendre des positions aux djihadistes. Une efficacité très médiatisée et plébiscitée par une majorité de la population. Officiellement, le Mali ne reconnaît toujours pas la présence des miliciens de Wagner, mais uniquement d'instructeurs russes présents dans le cadre normal d'accords de coopération militaire. Les témoins décrivent la présence d'hommes blancs aux côtés des forces maliennes. Ils accompagnent, encadrent les convois, participent aux opérations dans lesquelles plusieurs auraient déjà trouvé la mort. À Moura, les témoins affirment que l'armée malienne a utilisé ses supplétifs au sol. Selon eux, plusieurs centaines de personnes ont été exécutées après avoir été sommairement désignées, selon un témoin cité par l'AFP, par un combattant blanc présent auprès de l'armée malienne.
Claude Guibal de la rédaction internationale.
Sébastien, c'est un tournant judiciaire inattendu dans l'affaire Samuel Paty.
Alors qu'elle était restée dans le silence depuis l'assassinat de l'enseignant le 16 octobre 2020, eh bien la famille de Samuel Paty a décidé de porter plainte contre X avec dans le viseur l'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur. La famille Paty estime que l'administration est fautive de ne pas avoir protégé le professeur à l'époque. Les explications de l'avocate de la famille, Virginie Leroy.
L'objet, il est d'avoir des réponses qui seront examinées par un juge, hein, donc des réponses complètes, précises, sur les divers questionnements qui les animent depuis quelque temps, sur le fait que Samuel Paty n'ait pas pu être sauvé et n'ait pas bénéficié d'une protection policière. C'est le point majeur du questionnement. Toutes les alertes étaient réunies. En l'occurrence, il s'agissait d'un incident né d'une diffusion de caricatures. Il faut quand même rappeler qu'en octobre 2020, la France est sous le coup de 3 menaces terroristes explicites visant les caricatures. On est en plein procès Charlie Hebdo. Il y a l'attentat de la rue Appert qui vient d'être perpétré avec comme prétexte les caricatures. Et donc, on sait que les caricatures sont un sujet extrêmement sensible. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez une menace qui arrive sur un professeur dont le nom est très vite diffusé sur les réseaux sociaux et qu'on accuse de blasphème pour avoir montré des caricatures à des élèves, il est bien évident qu'on est sur un terrain extrêmement sensible et que la protection policière s'impose.
Virginie Leroy avec Ariane Grissel. Ce dépôt de plainte, 18 mois donc après l'assassinat de Samuel Paty, 4 jours du premier tour de la présidentielle, risque-t-il de venir percuter la campagne présidentielle? Il est un candidat en tout cas qui s'est emparé de l'affaire, Éric Zemmour, qui ces derniers jours, Élodie Forêt, fait feu de tout bois pour essayer de gêner le président candidat.
Oui.
Oui, pas un jour cette semaine sans qu'Éric Zemmour ne dénonce un scandale d'État ou une faillite de la justice. Pas une intervention média sans évoquer l'affaire Jérémy Cohen, ce jeune homme de confession juive mort écrasé par un tramway alors qu'il fuyait une agression. Cet après-midi, c'est sur Twitter que le candidat s'est exprimé sur la plainte de la famille Paty. Qui rendra justice, écrit-il, à la famille de Samuel Paty? Qui rendra justice à la famille de Jérémy Cohen? De la même façon, lors du meeting récemment au Trocadéro, il avait diffusé des petits films relatant des crimes supposément liés à l'immigration, provoquant l'indignation de la foule qui avait alors hurlé « Macron assassin ». Alors Éric Zemmour, lui, se défend de récupérer politiquement tous ces drames. Ses soutiens, eux, assument la stratégie « tout faire » alors que les sondages lui sont défavorables pour remettre ces thématiques au cœur de la campagne afin de réveiller les consciences. Tout faire surtout pour tenter de parler d'autre chose que de la guerre en Ukraine sur laquelle le candidat accumule les positions controversées du non-accueil des réfugiés ukrainiens à ses doutes exprimés récemment après la révélation des massacres à Boutcha.
Élodie Forêt du service politique d'Inter. La campagne présidentielle en bref encore avec la satisfaction de Nicolas Dupont-Aignan après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale contre les entités françaises du cabinet privé McKinsey, accusé dans un rapport du Sénat de ne pas avoir payé d'impôts sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. Enfin, une enquête a lancé le candidat de Debout la France qui sera en meeting ce soir à Paris. Dimanche, donc, plus de 46 millions de Français sont appelés aux urnes et parmi eux, nos aînés. Certains sont résidents en EHPAD, alors à quelques jours du premier tour, on s'organise pour leur permettre d'aller voter. Hier, par exemple, un atelier découpe de légumes s'est organisé à l'EHPAD de Neuville à Amiens, l'occasion de présenter les différents candidats. Et Bastien Thomas, beaucoup de ces résidents se sentent oubliés.
La photo et les idées de tous les candidats sont affichées dans la salle des fêtes et entre une carotte et une pomme de terre, cette résidente qui veut rester anonyme laisse éclater sa colère.
On est bernés, on nous promet beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a au bout ? Rien.
En face d'elle, Denise avoue elle aussi qu'elle n'ira pas voter dimanche. Et ça fait 9 ans qu'elle n'y va plus parce que les bureaux de vote ne sont pas forcément adaptés aux personnes âgées.
Je dis, moi, le marché, mais comme on se fichait de moi, je n'irai pas. J'ai été vexée qu'on m'a regardé, puis qu'on riait, puis qu'on ne s'est pas déplacé m'aider. J'ai dit, c'est ça le bureau de vote, j'irai plus.
En revanche, Angèle, 84 ans, va s'exprimer.
Vous savez, je regarde l'actualité. C'est un peu catastrophique. Je n'ai pas voté depuis qu'on a élu le président actuel, parce que je ne pouvais plus me déplacer. C'est très bien de pouvoir donner le pouvoir à quelqu'un.
Oui, c'est Kevin, l'animateur au sein de la maison de retraite, qui ira déposer son bulletin dans l'urne dimanche. Elle lui a donné procuration, un geste important, dit-il, pour que tous, chaque citoyen, puisse donner son avis.
C'est très très important de faire venir la police pour faire des procurations, de pouvoir les emmener dans les bureaux de vote. J'ai accepté volontiers.
Et selon lui, les seniors sont oubliés. Il aimerait que les bureaux de vote se déplace directement dans les EHPAD pour ne pas exclure les résidents.
Bastien Thomas de France Bleu Picardie.
Et puis on termine avec cette réjouissante nouvelle pour les musiciens et
les danseurs français.
Et les danseurs français, dites donc.
Conservatoire, plein de fautes de frappe. C'est mal marqué effectivement, mal écrit. Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris devient la 4e école des arts du spectacle dans le monde. 17e sur 100 en 2020, 5e en 2021. Le Conservatoire créé en 1795 et qui a formé entre autres Berlioz ou Boulez continue donc sa progression. Un conservatoire s'est réformé depuis l'arrivée de sa directrice Émilie Delorme en 2019, première femme de son histoire à diriger l'école. Elle a souhaité mettre la parité, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au cœur de son projet, tout en développant l'excellence. Émilie Delorme qui s'en trouve récompensée.
Ce classement vient couronner deux années de travail intense où on a évidemment, comme toute la société, dû gérer la crise sanitaire. Mais la période de la crise sanitaire nous a permis de travailler un certain nombre de points qui portent leurs fruits.
Quels sont les critères qui ont été déterminants ?
Alors, il y a trois critères sur lesquels se base ce classement. La réputation académique. Sur le plan artistique, on voit qu'il y a des changements de paradigme importants. On le voit très fortement, par exemple, sur les chefs d'orchestre où on a des classes quasiment paritaires et on voit dans le monde professionnel, la programmation a beaucoup évolué. Et puis, on voit aussi des secteurs où on a encore de grands chantiers devant nous.
Est-ce que cette 4e place au rang des meilleures écoles d'art du spectacle du monde va accroître la notoriété à l'étranger du conservatoire ?
Le conservatoire a déjà une notoriété incroyable. On a plus de 225 ans d'histoire. Ce nouveau classement va montrer à quel point il y a un dynamisme dans l'institution, à quel point on arrive à faire dialoguer la création contemporaine et tous les enjeux de notre société actuelle avec cette histoire, certainement.
Voilà, Émilie Delorme, la directrice du Conservatoire National Supérieur de Musique. musique et de danse de Paris, quatrième au monde, jointe par Stéphane Capron.
Eh bien, bravo. Merci beaucoup, Sébastien Legénie. À tout de suite, bien sûr, dans Sous les radars. Vous allez nous parler de deux carnets mystérieux de Darwin.
Retrouvés.
Qui ont refait son chemin vers nous. Formidable. Ce soir, nous sommes avec la procureure d'Ukraine qui recueille, qui compte les crimes de guerre russes, avec Laure Mandeville aussi, qui nous aidera justement à décrypter à la fois cette armée russe, cette société russe. Et peut-être que ça va nous apprendre des choses aussi sur ce que nous sommes en ce moment et ce qu'on est aussi en train de faire. Le téléphone sonne, c'est en deuxième heure. Je vous le remets dans l'oreille. Si vous avez 20 ans, si votre enfant sort en boîte, vous avez entendu parler du GHB. Et vous savez qu'une campagne de sensibilisation a été lancée en direction des boîtes, des bars, pour lutter contre cette drogue du viol. Une prise de conscience, vraiment, depuis la réouverture des boîtes. On des témoignages aussi qui affluent. On verra où on en est. C'est un vrai MeToo la nuit. Et c'est important d'en parler. Ça se passe au 01 45 24 7000. Et un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Sébastien Léa, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu. Vous nous annoncez de la pluie et du vent pour demain.
Mais parce que c'est bien la pluie. Une perturbation particulièrement active va s'enfoncer sur le pays cette nuit. Cette perturbation apportera beaucoup de pluie sur son passage sur une large moitié nord. Le vent sera aussi fort sur quasiment toutes les régions avec des rafales entre 60 et 90 km par heure. Des pluies soutenues circuleront le matin au nord de la Seine, l'après-midi plutôt entre la Lorraine, les Alpes du Nord et l'Orléans. Entre le Poitou-Charentes et le Limousin, les pluies localement soutenues persisteront quasiment toute la journée et des cumuls importants sont d'ailleurs attendus par endroits. Entre la Bretagne et les Hauts-de-France jusqu'au bassin parisien, le ciel va quand même s'éclaircir l'après-midi après les pluies du matin. Et puis au sud de la Garonne, c'est l'inverse, le soleil matinal cédera sa place aux nuages pour l'après-midi. Les régions méditerranéennes, elles, seront à l'écart et garderont des éclaircies toute la journée, hormis sur l'ouest de la Corse où le ciel sera plus chargé.
Avec des températures en hausse quand même.
Oui, cette perturbation atlantique s'accompagne d'air plutôt doux. Dans le sud, les maximales dépasseront même la barre des 20 degrés. Il fera 20 degrés à Biarritz, Toulouse, Montpellier, Solenzara, 22 degrés à Perpignan et à Nice. Prévoyez 18 degrés à Marseille, 15 degrés à Lyon, Paris et Strasbourg, 14 degrés à Nantes, Bordeaux et à Brest. On ira jusqu'à 13 degrés à Metz et à Caen et 12 degrés pour Dijon et Lille. Au petit matin, prévoyez 5 à 11 degrés.
Voilà, c'est pas terrible. Essayez de faire mieux tout à l'heure après 19h. Sébastien Léas de Météo France, merci.